toutes les voix du Mali.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Bonjour et bienvenue dans ce journal du 9 décembre 2016. Les titres. Le procès de Madou Ayassanogo et des coprévenus dans l'affaire des Bérets Rouges a été renvoyé à la première session de la Cour d'assises de 2017. C'est le président de la Cour qui l'a annoncé ce jeudi. Il a ordonné de nouveaux tests ADN d'ici 45 jours. Les avocats de la défense prennent acte de ce renvoi. Toutefois, ils envisagent de déposer un autre recours pour demander la liberté provisoire pour leurs clients. Quant à la partie civile, elle considère la tenue du procès déjà comme une victoire. Processus de DDR, plus de 30 milliards de francs CFA seront alloués au volet réinsertion. La Banque mondiale et le gouvernement ont contribué à 25% de cette somme. 10 000 ex-combattants seront concernés par cette partie du processus. De nouveaux projets pour répondre aux besoins d'électricité des zones rurales, c'est l'objectif de l'AMADER. Ces nouveaux programmes vont permettre de développer des secteurs comme l'agriculture et la santé. Fatmata Togola à la présentation. Le procès d'Amadou Ayassanogo et des 17 autres co-accusés a été renvoyé à la première session des assises en février 2017. La Cour a également ordonné de nouveaux tests ADN d'ici 45 jours. Le président de la Cour, Mamadou Berthe, a invalidé les autres exceptions de procédure de la défense. Il n'a pas précisé où se déroulerait la prochaine audience. Le point avec notre envoyé spécial à Sikasso, Mariam Meiga.
Principal motif de ce renvoi, une nouvelle expertise des tests ADN de 21 Bérets Rouges réclamés par les avocats de la défense. Ceux-ci ont estimé que les analyses réalisées sur les victimes après proposition du FBI par un laboratoire portugais sont contestables. Le président du tribunal a ordonné de nouveaux tests ADN dont les résultats doivent être disponibles d'ici 45 jours. Cette expertise a été confiée au laboratoire Mérieux de Bamako. L'avocat général s'est dit prêt à corriger les imperfections du dossier d'ici la prochaine session. Quant aux autres exceptions soulevées par la défense, elles ont toutes été rejetées par le président de la Cour, Mamadou Berthe. Les avocats de la défense ont pris acte de ce renvoi alors qu'ils envisageaient déjà de déposer un recours pour obtenir la liberté provisoire de leurs clients. De leur côté, les avocats de la partie civile n'ont pas critiqué la décision du président, estimant que la priorité reste le procès lui-même et son aboutissement. De Sikasso, Mariam Maïga pour Studio Tamani.
Les avocats de la défense sont restés mesurés dans leur réaction au renvoi du procès. Ils envisagent déjà de déposer un autre recours pour demander la liberté provisoire de leurs clients. Maître Chakoumar Mariko, avocat de la défense au micro de Mariam Meiga.
Le rapport d'expertise qu'il y a dans le dossier, c'est un rapport d'expertise qui est établi par l'ambassade des États-Unis. C'est l'ambassade des États-Unis qui a été désignée comme expert. L'ambassadeur n'a pas prêté serment. L'ambassade même n'a pas fait le travail. Elle est allée le sous-traiter au FBI américain. Le FBI lui-même n'a pas fait le travail, il allait sous-traiter à des experts portugais. Ces experts sont inconnus du juge et ils n'ont pas prêté serment. Dans ces conditions, le rapport d'expertise ne peut pas servir de preuve dans un procès d'assises. Et s'il ne peut pas servir de preuve, ça a beaucoup de conséquences. Ça veut dire que même quand on nous dit dans ce rapport qu'il y a tel nombre de corps, nous sommes en droit de dire que c'est fou. Quand on nous dit que tel corps appartient à telle personne, nous sommes en droit de dire que ce n'est pas vrai. Donc la Cour, en renvoyant l'affaire, permet la manifestation de la vérité. Seulement, nous ne sommes pas très heureux du fait que nos clients n'aient pas été libérés. Mais nous avons un recours pour cela. Nous allons déposer des demandes devant la juridiction qu'il faut.
Les avocats de la partie civile ne critiquent pas la décision de renvoi du procès par la Cour. Selon eux, la tenue du procès est déjà une victoire de la justice. Maître Mokhtar Mariko, avocat de la partie civile, au micro de Mariam Meiga.
Oui, je pense que c'est une victoire de la justice, une victoire pour les parties civiles, parce qu'en fait, tout ce qui a été demandé de l'autre côté a été rejeté. Les parties civiles sont un peu rassurées qu'effectivement, elles pourront, à la suite du rapport qui va être déposé, elles pourront aller tout droit vers un procès.
Comment les familles de victimes se sentent? Parce qu'il faudra faire une autre expertise.
Non, mais elles sont prêtes à cela parce qu'elles veulent que toute la vérité soit dite dans cette affaire. Elles veulent que toute la vérité soit connue. Et les rapports d'expertise peuvent nous permettre de savoir comment ils ont été assassinés. Avec quelles balles? Est-ce que c'est les balles de l'armée malienne? Les rapports peuvent déterminer tout ça. Et ça participe à la manifestation de la vérité. Et tous ceux qui seront reconnus après doivent
doivent être condamnés. Et ceux qui n'auront pas une implication active dans ce procès, nous voulons que ceux-ci soient purement et simplement acquittés, mais que les vrais coupables soient condamnés.
Réagissez à toutes ces informations sur la page Facebook, le compte Twitter de Studio Tamani. Studio Tamani. 50 millions de dollars, soit 30 milliards de francs CFA, c'est le montant du fonds qui sera levé pour le volet réinsertion du processus de DDR. 10 000 ex-combattants seront concernés par cette partie du processus. La Banque mondiale et le gouvernement ont contribué à 25% de cette somme. Pour la plateforme, ce financement est très important car il va permettre à des anciens combattants de s'insérer dans la vie civile. Fidon Meiga est membre de la plateforme, il est au micro de Imran Akilou Meiga.
C'est un financement très important. Puisque le DDR, tel qu'on le dise, les gens entendent le cantonnement, ils attendent les patrouilles mixtes, ils attendent l'intégration. Mais en réalité, la base même de la paix résulte dans ce processus de réinsertion. Ceux qui iront dans l'armée ont déjà une profession, auront déjà des activités à mener. Mais pour tout le reste, qui n'auront pas bénéficié de l'intégration, seront reversés dans la vie civile. Et un programme de réinsertion serait mis à disposition pour leur permettre de voir à court et à long terme les activités qu'ils vont mener. Et c'est dans ce cadre-là que ce fonds est mobilisé pour permettre d'assister les combattants, de les accompagner dans les projets qu'ils auraient initiés. Après l'intégration, ce qui va rester, qui va concerner la réinsertion, serait approximativement au nombre de 10 000. C'est très important. C'est-à-dire que ces 10 000, c'est ceux qui vont dans la vie civile. Mais on considère que 10 000 est un chiffre raisonnable, celui des Nations Unies, qui peut prendre en compte ces combattants.
Les mouvements de la coordination disent être disposés pour le DDR une fois que toutes les conditions seront réunies. La CMA salue déjà l'annonce de la fin de la construction de 8 sites de cantonnement par la MINUSMA. Al-Mouag Mohamed est l'un des porte-parole de la CMA. Il est au micro de Imran Akilou Meiga.
La CMA est prête ici à traiter de toutes les questions, de toutes les dispositions pertinentes de l'accord et aller à leur mise en œuvre effective. Comme je viens de vous le dire, rien n'empêche le désarmement. Simplement, il y a des préalables, il y a la mise en place des autorités intérimaires, il y a l'opérationnalisation du MOC qui sera chargé, les patrouilles mixtes qui seront chargés de sécuriser les sites où vont cantonner les gens. Donc il faudrait que ces patrouilles mixtes soient opérationnelles. Et une fois que ces patrouilles mixtes sont opérationnelles et que les autorités intérimaires sont en place, je ne vois aucun blocage, aucun frein pour la CEMA d'aller vers le DDR. Déjà, la CEMA a fourni 12 sites de cantonnement, la plateforme également, donc c'est 24 sites de cantonnement. Et sur les 24 sites, l'administration a annoncé aujourd'hui qu'il y a 8 sites qui sont déjà opérationnels.
Le comité de coordination intersectorielle de l'Agence malienne pour l'énergie domestique et l'électrification rurale s'est réuni hier. Ses responsables veulent répondre aux besoins d'électricité des zones rurales par de nouveaux projets. Selon le PDG de l'AMADER, ces nouveaux programmes vont permettre de développer des secteurs comme l'agriculture et la santé. Cheikh Ahmed Sanogo est le PDG de l'AMADER. Il est au micro de Mariam Koulibaly.
Si on construit un centre de santé, si on construit une école par exemple, il faut l'électrifier. Dans le domaine de l'agriculture, dans ce qui concerne l'exode, l'eau, les irrigations, tout ça a besoin d'énergie. Alors c'est pour cela que nous avons estimé donc qu'il faut mettre ensemble tous ces départements ministériels pour examiner les programmes de développement sectoriel afin que nous, en tant qu'AMADER, représentant le département en charge de l'énergie, donc puissions intégrer dans nos programmes de développement, dans nos programmes de réalisation d'ouvrages d'éducation rurale, ces besoins en énergie justement pour ces différents programmes sectoriels. Sans oublier évidemment donc la population rurale elle-même qui est là et également pour soutenir le développement des activités génératrices de revenus donc par la mise à disposition de l'électricité en quantité suffisante et à moindre coût, justement pour pouvoir amorcer le développement local.
Studio Tamani, financé par l'Union européenne et les gouvernements de la Suède et du Royaume-Uni.
À présent, les échos de nos régions. 200 femmes ou jeunes entrepreneurs ayant reçu des kits d'emploi ont participé hier à l'ouverture de l'antenne du guichet unique de Sikasso. Ce guichet va permettre d'offrir aux opérateurs économiques femmes ou jeunes qui opèrent dans l'informel d'avoir accès à des financements pour leur activité. La cérémonie d'installation a été organisée par l'Agence d'investissement du Mali. La BAD va contribuer au financement à hauteur de 8 milliards de francs CFA. Les ressortissants de Diafounou dans la région de Kaye et qui vivent arrive aux États-Unis ont fait don d'équipement à l'hôpital de Tabankara et Yelemane. L'aide représente une valeur de 600 millions de francs CFA et est composée notamment de médicaments et de fauteuils roulants. La fondation Cheikh Mansour Haïdara apporte un appui matériel à l'hôpital Nyerankorofomba de Ségou et au CESCOM des communes de Sébougou et Pelengana. Cette aide est composée essentiellement d'équipements médicaux. La fondation a aussi offert 200 sacs de riz au jardin d'enfants et médersa de la ville et des céréales aux associations féminines religieuses pour célébrer le Mouloud. Ces dons représentent une valeur de 60 millions de francs CFA. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, le magazine. C'est toi, Tamani.